Chapitre 1. Les Sec Units se moquent pas mal des actualités. Même après avoir piraté mon module superviseur et débloqué mes accès, je n'y ai jamais prêté grande attention. D'abord parce que les téléchargements de contenu multimédia risquent moins de déclencher les alarmes éventuelles des réseaux locaux et satellitaires, les nouvelles d'ordre économique et politique circulant à d'autres niveaux au travers d'échanges chiffrés, mais surtout parce que les informations sont d'un ennui mortel et que je me fiche éperdument des querelles entre humains tant que je n'ai pas, 1, à y mettre un terme, 2, à nettoyer après eux. Néanmoins, tandis que je remontais la galerie marchande de l'anneau orbital, un flash info en provenance de station tournait en boucle sur toutes les chaînes. Je l'ai parcouru d'un œil distrait, mon attention accaparée par la foule, à travers laquelle l'abominable assassinte que je suis essayait de se frayer un chemin en jouant les parfaits humains augmentés. Cela impliquait principalement de ne pas paniquer au moindre contact visuel accidentel. Heureusement, les autres voyageurs étaient trop occupés à se rendre à destination, à s'orienter ou à chercher les horaires de transport en ligne. Le cargo autopiloté qui avait accepté de me prendre en stop avait traversé le trou de ver en compagnie de 3 autres transports de passagers, et les grandes galeries marchandes qui reliaient les différentes zones d'embarquement étaient bondées. Hormis les humains, on y croisait toutes sortes de robots, de tailles et de formes diverses. Des drones en vadrouille qui bourdonnaient au-dessus de la foule et des conteneurs de fret circulant sur des passerelles en hauteur. J'avais beau ne plus faire partie de l'inventaire de la compagnie, je me trouvais encore sur le territoire de la bordure corporatiste et j'avais encore le statut de marchandise. Toutefois, aucun drone de sécurité ne chercherait les Sec Units sans instruction express et je n'avais encore reçu aucun ping. C'était plutôt rassurant. Je m'en sortais d'ailleurs plutôt bien, compte tenu du fait que je traversais seulement pour la 2e fois de ma vie une station de transit. Les Sec Units sous contrat, d'ordinaire expédiés en soute, n'ont jamais l'occasion de visiter les sections réservées aux humains. J'avais dû abandonner mon équipement au centre de déploiement, mais l'anonymat que me procurait la foule se révélait aussi efficace que celui de mon armure. Oui, je cherche encore à m'en persuader moi-même. Avec mon havresac et ma tenue noire et gris, composée d'un t-shirt à manches longues, d'une veste, d'un pantalon et de bottes qui couvraient mes composants non biologiques, je me fondais sans problème dans le patchwork de vêtements, de peau, de cheveux et de cybernétique. Le connecteur à l'arrière de ma nuque, certes visible, ressemblait trop aux interfaces implantées des augmentés pour susciter une quelconque méfiance. En outre, personne n'aurait imaginé qu'un assassin puisse circuler ainsi parmi les humains comme une personne à part entière. Soudain, au milieu de la revue d'informations qui tournait en tâche de fond, une image m'a sauté aux yeux. C'était moi. Seule ma capacité à ne pas réagir face à ce qui me choque et m'horrifie m'a évité de piler sur place. Tout au plus ai-je perdu le contrôle de mon expression faciale l'espace d'une seconde, moi qui avais l'habitude de porter un casque, le plus souvent au pacifié. J'ai bifurqué sous une large arcade qui abritait plusieurs comptoirs de restauration avant de m'arrêter à l'entrée d'un petit quartier d'affaires. Je donnais ainsi l'impression de scanner en toute innocence les sites des vitrines des entreprises. Sur la photographie publiée dans le flash info, on me voyait, debout dans le hall de l'hôtel sur station, en compagnie de Pinley et Ratti. La focale était réglée sur Pinley, avec sa mine déterminée, le pli contrarié de ses sourcils froncés, et sa tenue stricte d'avocate. Flou, Ratti et moi, en uniforme de préservation Hawks, apparaissions en arrière-plan. La légende m'identifiait comme garde du corps, ce qui me convenait très bien. En revanche, je m'attendais au pire en consultant l'article avec attention cette fois. Bon, pour commencer, l'anneau orbital qui, pour moi, avait toujours été station, siège des bureaux de la compagnie et de mon centre de déploiement et stockage, s'appelait en réalité Port Libre-Échange. Sur place, j'avais passé la majeure partie du temps en caisson de maintenance, en conteneur ou en stand-by dans un coin, en attente de contrat. Au détour d'une phrase, le journaliste rappelait que le docteur Mensah avait acheté la Sec Unit qui lui avait sauvé la vie, la touche sentimentale d'une histoire sinon lugubre, vu le lourd bilan des victimes. En revanche, peu coutumier des Sec Units autrement qu'en armure, ou en un tas de ferraille sanguinolent dans le pire des cas, il n'avait pas mis en corrélation l'androïde racheté et ce qu'il prenait pour un banal humain augmenté qui entrait dans l'hôtel aux côtés de Pinli et Ratti. Ce n'était pas plus mal. Chose étrange néanmoins, le Flash Info diffusait également une partie de nos enregistrements vidéo, dont celui de ma caméra embarquée. On suivait ma progression dans la base d'Eldfall, jonchée de cadavres, ainsi que des angles de vue de Guratine et de Pinli, au moment où ceux-ci nous avaient trouvés, Mensa et moi, en tout cas ce qu'il en restait, après l'explosion. Je les ai examinés en vitesse afin de m'assurer qu'on ne distinguait pas clairement mon visage. Le reste du reportage relatait comment la compagnie d'Eldfall, ainsi que Préservation et trois autres entités politiques non corporatistes qui comptaient quelques ressortissants parmi l'équipe d'Eldfall, se liguaient contre Grey et Chris. On y décrivait la bataille d'avocats de tous bords qui faisait rage, et où certaines entités, pourtant alliées durant l'enquête, se querellaient à présent pour des motifs de responsabilité financière, de juridiction et de garantie d'options. J'ignore comment font les humains pour ne pas se mélanger les pinceaux. Peu de détails avaient filtré sur ce qui s'était passé entre l'activation de la balise de détresse par les préservations Hawks et l'arrivée du vaisseau de rapatriement d'urgence. Néanmoins, il n'en fallait normalement pas plus pour déduire que la SEC Unit en question se trouvait auprès de Mensa et des autres. Eux savaient en revanche qu'il n'en était rien. Le redatage indiquait une mise en ligne assez ancienne. L'article avait été publié un cycle après mon départ de Port Libre-Échange. Un des transports de passagers, plus rapide, avait dû le stocker dans ses banques mémorielles et devancer mon cargo par le trou de verre. Ce qui voulait dire que les chaînes d'information officielles diffusaient sans doute des nouvelles plus récentes. Bon, inutile de paniquer. Personne ici ne cherchait une SEC Unit renégate. D'après les renseignements disponibles sur les flux publics, aucune agence de sécurité ou société de courtage ne possédait de centre de déploiement sur cette plateforme. Mes précédents contrats avaient toujours concerné des installations isolées ou des planètes inhabitées, et il n'y avait aucune raison que je fasse exception. Même les programmes de divertissement ne montraient jamais de SEC Units employés comme vigiles dans des bureaux, des entrepôts de stockage, des chantiers d'armateurs ou toute autre entreprise implantée sur une station orbitale. Sans compter que, dans ces émissions, les androïdes de sécurité se résumaient à des armures sans visage qui terrifiaient les humains. Me fondant dans la foule, j'ai repris mon chemin dans le dédale de galeries marchandes. Il fallait que je me méfie des services de transport payants, comme les navettes intrastations, dont les infrastructures étaient toujours équipées de détecteurs d'armes. Pirater un de ces scanners ne me posait aucun problème. Mais à en croire mes protocoles de sécurité, il y en aurait à l'appel dans les espaces dédiés aux passagers. Et j'avais beau être multitâche, je connaissais mes limites. D'ailleurs, cela supposerait aussi de contourner le système de paiement, et je ne voyais pas trop l'intérêt de me donner autant de peine pour le moment. Cela me ferait une sacrée trotte jusqu'au saut de lancement des cargo bots, mais j'en profiterais pour me connecter aux chaînes de divertissement et télécharger du nouveau contenu. Durant la première partie de mon voyage, à bord de mon transport désert, j'avais eu l'occasion de réfléchir à mes raisons de quitter Mensa et à mon but dans la vie. Je n'en reviens pas moi-même. Pourtant, je ne pouvais pas me voiler la face. Aussi tentant que cela paraisse, je n'allais pas passer le reste de mes jours à voyager de cargo, en m'abreuvant de contenu multimédia. J'avais un plan. Ou en tout cas, j'en aurais un, une fois que j'aurais répondu à une question essentielle. Et je savais où trouver la réponse. Deux vaisseaux autopilotés en partance le prochain cycle étaient susceptibles de me conduire à destination. Le premier n'était pas sans rappeler le cargo qui m'avait permis d'atteindre cette station. C'était l'option la plus intéressante, car il partait un peu plus tard, ce qui me donnait le temps de gagner son quai d'amarrage et de le convaincre de me laisser embarquer. J'aurais aussi pu le pirater, mais je préférais éviter. Je n'étais pas très à l'aise avec l'idée de passer autant de temps avec une entité qui ne voulait pas de moi, ou que j'aurais manipulée afin qu'elle pense m'accepter de bon gré. Grâce aux plans et horaires diffusés par toutes les bornes interactives réparties sur l'anneau, j'ai gagné l'aire de chargement de marchandises et attendu la relève de l'équipe en place avant de rallier la zone d'embarquement.